Vous êtes sur RTL. RTL Midi,
le 12-30,
avec Olivier Bois.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce RTL Midi. Ravi vraiment de vous retrouver, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30. Deux heures d'infos, vous le savez, de débats, mais aussi d'opinion. Votre opinion sur l'actualité, c'est votre émission. Vous nous appelez au 3210 à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. À la une de votre journal, la sortie au Poney Club a tourné au drame hier en Ille-et-Vilaine. Les animaux se sont emballés, 15 enfants ont été blessés, dont un qui est toujours ce midi soigné dans les services de réanimation. Enfin, le mot d'accalmie a été prononcé hier en Gironde. Les feux ont progressé moins vite hier. Les pompiers restent malgré tout prudents. On sera à Landiras et à la Teste de Buch où Emmanuel Macron est attendu cet après-midi. Bonjour Louis Baudin.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Alors justement, le temps va-t-il continuer d'aider les pompiers de Gironde?
Alors, pas forcément parce que le soleil va revenir cet après-midi. En revanche, on aura toujours du vent d'ouest dominant et ça reste une bonne nouvelle puisque c'est un vent marin plutôt chargé en humidité, donc qui devrait limiter en tout cas la sécheresse et donc aider les pompiers dans leur travail. Mais c'est vrai que globalement, comment on va retrouver du temps sec dans le sud-ouest, même chose près de la Méditerranée où là malheureusement la sécheresse va également s'accentuer. En revanche, dans toutes les autres régions, sur une large moitié nord, ça va rester beaucoup plus instable avec des passages nuageux, des averses, parfois accompagnées d'orages, des orages qui gagneront les régions de l'est en fin de journée, du côté de l'Alsace ou encore Franche-Comté. Tout cela avec des températures qui baissent quand même dans la plupart des régions. Nous serons entre 22 et 27 degrés du côté de la Bretagne, entre 28 et 33 degrés dans les régions de la moitié ouest. Il n'y a que dans l'est où on dépassera encore parfois les 35 degrés, que ce soit en Lorraine ou encore tout près de la Méditerranée avant l'arrivée de ces orages.
Merci beaucoup Louis Baudin. Et puis à propos de l'incendie d'ailleurs, vous nous direz avec Agathe Landais si la fumée qu'on a sentie hier soir, notamment en région parisienne, provient ou pas de ces incendies de Gironde. Dans ce journal également, l'Europe se prépare à faire sans le gaz russe. Il va falloir être économe pour cet hiver. Et c'est d'ailleurs la question du jour sur RTL.fr. Avez-vous commencé à faire des économies d'énergie? Vous avez répondu oui à 52%, non à 42% et vous êtes 6% à ne pas se prononcer. Et puis on parlera enfin du casse-tête pour se désengager. Quand on a pris, vous savez, un abonnement internet ou un ticket pour la salle de sport et qu'ensuite on met des semaines avec beaucoup de paperasse pour se désengager précisément.
RTL Midi.
Et donc d'abord, ce drame hier à côté de Vitré, en Ille-et-Vilaine. 15 enfants ont été blessés lors d'une sortie dans un poney club. Un enfant reste en urgence absolue. Bonjour Julie Brault.
Bonjour.
Alors comment cette sortie a tourné au drame hier?
Eh bien, hier soir, un peu avant 21h, les enfants et deux moniteurs emmènent une vingtaine de poneys en direction du pré. Sur le chemin, l'un des animaux fait demi-tour brusquement, ce qui affole le reste du troupeau. Plusieurs bêtes prennent la fuite, les poneys renversent et piétinent certains jeunes et les animateurs sur leur passage. Tous sont blessés aux bras ou aux jambes. Très vite, les secours arrivent sur place et évacuent les enfants âgés de 9 à 13 ans vers les hôpitaux voisins. Trois d'entre eux ont été héliportés hier soir en état d'urgence absolue.
Et alors, comment vont ces enfants? Les médecins ont fait un point précisément ce matin.
Eh bien, le chef des urgences du CHU de Rennes affirme que la vie de ses trois enfants n'est plus menacée. Louis Soula s'est exprimé il y a quelques minutes au micro de BFM TV.
Les trois plus graves qui sont à l'hôpital sud sont encore hospitalisés, un en réanimation pédiatrique et deux en soins continus. Leur état est stationnaire, les bilans radiologiques ont confirmé les lésions qu'on suspectait consécutives à des coups de sabot. C'est des fractures des os de la face, mais le pronostic aujourd'hui est favorable.
Deux cellules médico-psychologiques ont été ouvertes, l'une à l'hôpital, l'autre au centre équestre où s'est déroulé le drame. La gendarmerie de Vitré a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.
Merci pour toutes ces précisions, Julie Brault.
RTL Midi.
Enfin, les pompiers de Gironde ont vu les deux gigantesques incendies de Landiras et du bassin d'Arcachon se calmer un peu hier. Et il a fait moins chaud, le vent était également moins fort. La préfète donc de la région a prononcé ce mot d'accalmie tout en restant extrêmement prudente pour les jours à venir. On va partir précisément à Landiras pour vous retrouver Patrick Tégéraud. Vous êtes avec les pompiers, que disent-ils eux ?
Eh bien, le sentiment général, c'est que ça fait du bien. Ça fait du bien aux organismes. L'équipement de 20 kilos semble plus léger aujourd'hui. Et ça fait du bien au moral. Le caporal Alexandre Anceau est passé du feu de la Teste à celui de Landiras ce matin. Il est de la caserne de la Benoge à Bordeaux.
Il y a moins de tension puisque on a quand même perdu 20 degrés en deux jours. L'humidité commence à se poser, il y a quelques gouttes qui nous soulagent mais qui font rien au feu. Enfin, c'est pas assez, clairement. On attend la pluie avec impatience. Alors, malheureusement, c'est pas la fraîcheur qui fera arrêter le feu. Ça va être la pluie et surtout le vent qui cesse de souffler et changer de sens continuellement. Vent d'est, vent d'ouest, le feu part à gauche, le feu repart à droite. Et malheureusement, ça, c'est des éléments qu'on peut pas contrôler.
Alexandre est venu trouver un peu de repos dans la salle polyvalente de l'Andiras où des bénévoles comme Nathalie préparent des petits déjeuners. Alors elle a beaucoup parlé avec les soldats du feu.
Surtout les températures ont chuté, donc ils sont soulagés par ça. Mais ils sont épuisés. Ouais. Ils se posent la question, quand la fin ? Quand la fin ? Est-ce que ça va repartir ? Est-ce que, voilà, c'est pas terminé encore ?
Ouais. Encore beaucoup d'angoisse.
Beaucoup d'angoisse, ouais. Énormément d'angoisse.
Tout le monde sait que ce répit peut être de très courte durée. Le mari, le frère, le beau-frère de Nathalie sont pompiers volontaires.
Merci beaucoup Patrick Tégéraud à l'Andiras pour RTL. À propos de l'homme qui avait été interpellé, soupçonné d'avoir mis le feu, il est ressorti libre, aucune charge contre lui et les éléments d'enquête recueillis le mettent hors de cause. Sur la côte, donc maintenant, dans le secteur de la dune du Pilat, à la faveur de ce répit, le président Emmanuel Macron est attendu cet après-midi pour rencontrer les soldats du feu et les habitants. On rappelle que 7000 hectares ont été ravagés, des campings ont été détruits, les vacanciers sont partis. Résultat, les habitants, les élus, les professionnels du tourisme attendent des gestes forts de soutien de la part de l'État. Bonjour Zoé Pallier, vous êtes sur place.
Bonjour. Oui, parce qu'ils craignent une saison blanche. Jacques, par exemple, il gère un café qui donne sur une petite place, habituellement bondée à cette période de l'année. Et il constate déjà, avec regret, qu'il y a beaucoup moins de passages dans les rues du centre-ville et donc à son comptoir.
Au niveau chiffre d'affaires, hein, tout simplement. Hein. On a bien déjà au moins une baisse, de, on va dire, entre 20 et 30% sur une semaine, oui. On sent les gens qui restent moins longtemps, qui dépensent moins. La clientèle de passage qu'on a l'habitude de côtoyer à ce moment-là, on sent une baisse significative. Le pire est devant nous.
Voilà, Olivia Grégoire, la ministre déléguée au tourisme, a promis des aides pour les commerçants de la Teste de Buch, ceux qui vivent de l'activité des campings détruits par les flammes. Mais ça ne suffira pas, estime le maire Patrick Davé.
Des aides, quelque part, c'est un one shot, quoi. C'est-à-dire, là, à l'instant présent, il va y avoir besoin d'aide, mais après, je vais avoir besoin d'accords, d'autorisation sur le moyen terme.
Les autorisations pour reconstruire ?
Des autorisations administratives, tout ce dont on a besoin pour reconstruire.
Et sur le plus long terme encore, le maire aimerait que l'État l'aide à garantir un meilleur entretien de la forêt pour éviter à tout prix un nouvel incendie de cette ampleur.
Merci beaucoup Zoé Pallier, envoyée spéciale d'RTL dans le secteur de la Teste de Buch. Et puis appelez-nous au 3210 si vous êtes précisément patron de restaurant dans la région, si vous êtes marchand de glace. Venez nous dire quel est l'impact de cette catastrophe de ce début d'été et ce que vous attendez précisément de la venue du président de la République. Alors on va faire le point maintenant sur un phénomène assez étonnant, puisqu'hier soir à Paris et en Île-de-France, on a senti une odeur de brûlé. Bonjour Agathe Landais.
Bonjour.
On a entendu différentes choses depuis hier soir. Est-ce que cette fumée provenait des incendies de Gironde ?
En fait, ce phénomène s'explique par plusieurs facteurs. La chaleur, la pollution et la remontée de ces fumées dégagées par les incendies. Un vent venu de l'Atlantique a poussé cet air très chargé en particules après 7 jours d'incendie, de la Gironde vers la Touraine et jusqu'à l'Île-de-France. Et puis rappelons qu'hier, il y a aussi eu des feux en région parisienne, notamment dans les Yvelines. Incendie moins important évidemment que dans le sud-ouest, mais ce sont tous ces événements conjugués qui ont créé ce brouillard un peu gris dans la soirée.
Et qui crée une pollution, il y a des particules dans l'air où elles ont déjà été évacuées.
Bah oui, ça crée de la pollution, d'autant qu'avant même l'arrivée de ces fumées, l'Île-de-France traversait déjà un épisode de pollution depuis lundi à cause de la canicule. Antoine Trouche, ingénieur à Air Paris, au micro de Mathilde Pires.
On voit en agglomération parisienne et dans toute l'Île-de-France une forte remontée des niveaux de particules qui peuvent ponctuellement dépasser 100 microgrammes par mètre cube, ce qui est des niveaux importants. Hein. À titre de comparaison, dans l'agglomération d'Île-de-France, en dehors de Paris, on a habituellement des niveaux dans ces périodes qui sont aux alentours de 15 microgrammes par mètre cube.
Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà en train de s'améliorer grâce à la pluie et grâce au vent.
Merci beaucoup, tout était clair. Agathe Landais, on va maintenant parler d'une expérience qu'on a quasiment tous connue. Vous vous abonnez en trois clics à une salle de sport ou à une plateforme, vous savez, de streaming. Et par contre, vous avez le plus grand mal à vous désabonner une fois que vous êtes lassé. Eh bien, le gouvernement voudrait simplifier la procédure, notamment dans un article de loi du projet loi pouvoir d'achat. Et il est temps hein, pour Aurélien, qui lui a des problèmes, en l'occurrence, avec son assurance voiture, interrogé par Pierre Herbulot.
Et rien que le fait déjà de demander un avis de situation. En fait, on peut demander tout en ligne. Donc, on télécharge directement en format PDF. Mais là, par contre, ils nous l'envoient par courrier. Pourquoi? Pour ensuite nous appeler pour essayer de nous garder. C'est un peu comme Free quand ils vous font des 50 euros de frais de résiliation, par exemple. En fait, c'est très facile de signer le contrat. Il n'y a pas de problème. Et pour le résilier, ça prend des plombs. Ben, ils demandent des papiers, ils vous appellent, ils font des démarchages téléphoniques et tout. C'est assez fatigant. En fait, ma nouvelle assurance aurait dû aller vers mon ancien assureur et résilier mon contrat à ma place. Je me suis rendu compte 3 mois après, parce que je suis un peu tête en l'air, que je payais 2 assurances par mois pour une seule voiture.
Et voilà, c'est l'exemple typique. 40% des Français sont concernés. Vous nous appelez évidemment au 3210. On va parler de ce sujet avec vous à partir de 13h. Au 3210, on parlera aussi de ces déserts médicaux. Problème absolument insoluble depuis des années. L'État cherche à pousser les médecins à s'installer dans les zones rurales. Pour le moment, la politique est un échec. Résultat, il y a une vraie inégalité de soins quand il faut parfois des semaines pour avoir un rendez-vous. Vous, on attend vos témoignages là-dessus également au 3210. L'actualité à l'étranger maintenant. Vladimir Poutine va-t-il rouvrir le robinet du gaz? Le gazoduc Nord Stream 2 qui livre l'Europe est fermé depuis plus d'une semaine officiellement pour maintenance. En théorie, il rouvre demain, mais la Russie pourrait ne pas honorer cet engagement pour punir les Occidentaux et peser sur les opinions publiques. C'est d'ailleurs le scénario que privilégie la Commission européenne de Bruxelles. Elle a proposé un plan d'économie avec l'objectif que chaque pays réduit sa consommation de gaz de 15% dès le mois prochain, Bénédicte Tassin.
Oui, dès le mois prochain, il faut passer à l'acte et c'est d'abord limiter le chauffage à 19 degrés et déclencher la climatisation au-delà de 25 degrés seulement dans les bâtiments publics, dans les magasins et les bureaux. C'est aussi encourager des sources de chaleur alternatives pour le chauffage urbain. Par exemple, récupérer la chaleur produite par une usine d'incinération de déchets, inciter les ménages à remplacer leurs chaudières par des pompes à chaleur. Les terrasses chauffées des bars et restaurants devraient être dans le collimateur. Mais surtout, il faut viser les secteurs les plus énergivores, c'est-à-dire les centrales gaz qui produisent de l'électricité et l'industrie. Certains pays qui veulent fermer leurs centrales nucléaires devraient patienter quelques années. Les centrales gaz devraient se doter de générateurs d'appoint capables de prendre le relais pendant 5 jours. Voilà en gros les préconisations de Bruxelles. Après, à chaque pays de fournir les efforts. Et si vous trouver tout cela bien contraignant. Sachez que l'Allemagne prend le taureau par les cornes. Certaines municipalités allemandes se demandent s'il ne faut pas fermer les piscines publiques l'hiver ou alors baisser le chauffage à 17 degrés la nuit seulement dans les logements sociaux.
C'est un peu frais. Merci beaucoup, Bénédicte Tassard. Un mot en Italie, le Premier ministre Mario Draghi ne démissionne pas pour le moment. Il va redemander la confiance des sénateurs. Le vote est attendu ce soir. Son gouvernement d'Union nationale de la gauche à l'extrême droite vacille depuis des jours. S'il n'obtient pas la confiance, il faudra à nouveau des élections en Italie. Et puis d'un mot, le Tour de France, la 17e étape entre Saint-Gaudens et Peyragude, deuxième des 3 étapes pyrénéennes. On sera avec Christophe Paco dans moins de 10 minutes sur la route du Tour et puis on suivra la course cet après-midi toutes les demi-heures avec Nicolas Georgerot. Il est midi 43 sur RTL. Dans un instant, on va parler justement de ces déserts médicaux avec notre invité. Faut-il forcer les médecins à s'installer dans les petits villages pour que tous les Français soient égaux devant les soins? A tout de suite sur RTL.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi
avec Olivier Bois.
Midi 45 sur RTL. On va parler maintenant de ce problème des déserts médicaux. Problème quasiment insoluble, en tout cas on n'y arrive pas depuis des années. On est en direct avec Yannick Schmitt, invité de ce RTL Midi. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes docteur, vous avez été président de l'intersyndicale Réagir, qui est le regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants. On va parler longuement avec vous dans un instant, mais d'abord on est avec Anaïs Bouissou du service économique d'RTL. Les aides, inciter la politique d'incitation des médecins à s'installer dans les zones rurales, ça n'a pas marché.
Oui, ce n'est pas faute d'avoir tenté. Pourtant, le gouvernement précédent a supprimé le numerus clausus pour attirer plus d'étudiants. Les maires déploient des trésors d'inventivité pour attirer les médecins en leur construisant des cabinets, en leur proposant parfois même de les salarier. Et depuis 5 ans, l'assurance maladie a développé des aides financières à l'installation, jusqu'à 50 000 euros pour venir habiter dans une zone qui manque de médecins. Le problème, c'est que rien n'y fait. 32 millions d'euros dépensés rien qu'en 2020. Et les inégalités d'accès aux médecins généralistes ont continué de s'accentuer. C'est un document de l'assurance maladie qui le dit. En 5 ans, les aides ont attiré moins de 5 000 professionnels dans les déserts médicaux.
Voilà. Voilà pour un état des lieux assez inquiétant. Merci à Anaïs. Et donc Yannick Schmitt, on est avec vous. Vous êtes médecin. Vous venez d'entendre les explications d'Anaïs. Pourquoi on n'y arrive pas et faut-il maintenant forcer les médecins, après la politique incitative, forcer les médecins à s'installer dans ces zones éloignées?
Oui, en réalité, le problème est relativement complexe, mais finalement assez simple à comprendre. Aujourd'hui, le nombre de médecins formés n'est pas suffisant pour couvrir le nombre de médecins qui s'en vont à la retraite. On perd chaque année 1000 médecins généralistes, et ça va continuer encore pendant au moins 10 ans, d'après les dernières projections de l'ADRES. Donc le point bas n'est pas encore atteint, et les années difficiles sont devant nous. Après, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement essayer de garantir un accès aux soins à la population? C'est certainement déjà inciter les jeunes médecins à aller vers la médecine générale et aller en particulier vers l'exercice libéral. Mmh. C'est la politique des différents gouvernements ces dernières années au travers de différents dispositifs.
Mais ça n'a pas marché jusqu'à maintenant, l'incitation. Il faut inciter comment alors, si c'est
alors que ce soit efficace, justement, hein. C'est là où je suis pas d'accord avec ces conclusions, parce que les médecins qui se sont installés au travers de ces dispositifs sont en exercice et travaillent dans des zones sous-dotées. Donc ça reste une réussite. Le problème, si vous voulez, c'est que quand on perd 1000 médecins généralistes par an, ça veut dire que 1000 territoires perdent leurs médecins chaque année. Et ça, c'est malheureusement insoluble, puisqu'on pourra pas créer des médecins en un coup de baguette magique. Vous avez parlé de l'augmentation du numerus clausus, sauf que ça, c'est une action qui met 10 ans à produire ses effets. Donc
c'est le manque de médecins. Qu'on les incite ou qu'on les force, de toute façon on n'en trouvera pas assez pour remplacer tous ceux qui partent.
Alors précisément, dans le cadre de la pénurie de médecins actuelle, l'incitation est finalement la seule mesure vraiment efficace, puisque si on va vers des mesures coercitives, on va avoir un effet repoussoir qui va se produire, et les médecins qui vont choisir une spécialité vont du coup préférer des spécialités autres que la médecine générale, et en plus de ça, lorsqu'ils seront médecins généralistes, vont peut-être aller vers d'autres types d'exercices que la médecine libérale, et du coup, là encore, on sera dans des difficultés plus importantes d'accès aux soins. Donc véritablement, les mesures coercitives sont une fausse bonne idée.
On ne peut pas demander à un jeune médecin de donner, entre guillemets, quelques mois, quelques années, ou dans une carrière globale, les forcer à passer un petit moment dans des villes ou villages qui manquent.
C'est une proposition qu'on entend de manière récurrente, sauf que là encore, c'est une proposition qui ne peut pas fonctionner, puisque, comme je le disais tout à l'heure, si on n'a pas assez de jeunes médecins, oui. Aujourd'hui, il y a à peu près 4000 médecins généralistes qui sont formés chaque année. Si vous leur demandez d'exercer dans une zone sous-dotée à l'issue de leur formation, de toute façon, des zones sous-dotées, il y en a partout actuellement. Donc, il va falloir faire un tri qui va être douloureux, et probablement que ça ne résoudra pas le problème, puisque il y aura toujours une zone qui sera plus sous-dotée juste à côté.
Donc, pour le moment, il n'y a pas de solution, mais dans cette étude, Anaïs Bouissou est restée avec nous, ça montre qu'il y a une vraie inégalité d'accès aux soins de la part des Français, et parfois une perte de chance pour certains Français, en fonction de l'endroit où on vit, on n'a pas les mêmes chances d'être soigné d'une maladie grave.
Clairement, il y a une vraie difficulté d'accès aux soins de la population, ça c'est très clair, et elle va aller en se majorant progressivement. Ce vers quoi il faudrait aller, effectivement, c'est davantage d'exercices coordonnés avec les autres professionnels de santé, pour que justement on puisse apporter une réponse à l'ensemble de la population, et cette réponse ne sera peut-être pas forcément un rendez-vous chez le médecin généraliste tous les mois pour un renouvellement de traitement, comme ça peut encore se voir et comme ça a été le cas pendant des années, mais ça nécessite d'une part des changements structurels, au travers notamment de la création de communautés professionnelles sur les différents territoires, mais aussi d'une éducation des patients. Et là, on rejoint un autre sujet qui est celui du recours à l'hôpital, où effectivement, il faut qu'on change notre manière de faire dans la manière de se soigner.
Merci beaucoup, merci Yannick Schmitt d'avoir été l'invité d'RTL ce midi. Je rappelle que vous êtes médecin et que vous avez été président d'une intersyndicale de jeunes médecins précisément. Merci pour toutes vos précisions, à bientôt sur RTL. On va faire une pause et dans un instant on part sur la route du Tour, retrouver Christophe Paco. Deuxième étape pyrénéenne, peut-être enfin la grande explication entre Pogacar et Vingegaard, à tout de suite.
RTL midi. Tour de France 2022.
RTL, chez vous.
Christophe Paco.
Et bonjour Christophe Paco.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Alors sur la route du Tour, la 17e étape, donc entre Saint-Gaudens et Peyragudes. Deuxième des trois étapes pyrénéennes, arrivée au sommet en plus cet après-midi. Hier, Pogacar n'a pas réussi à décrocher le maillot jaune Vingegaard. Il va retenter forcément aujourd'hui, Christophe.
Oh oui Olivier, le duel est tellement superbe sur ce tour que pour ce deuxième acte de ce triptyque pyrénéen, comment ne pas imaginer le Slovène Tadej Pogacar continuer à tenter de déstabiliser son grand rival danois. Point étape ici à Saint-Gaudens avec nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Le coup de cœur de Laurent Jalabert, rencontre du jour avec le pilote de la voiture rouge, la numéro 1, Gilles Meignan. Question du jour, un Français, David Gaudu sur le podium à Paris, qu'en pensez-vous? Et puis détour par le stand de son équipe, justement, l'équipe française de la Groupama FDJ. RTL chez vous, c'est parti.
RTL chez vous, Christophe Paco.
RTL chez vous, juste à côté de la voiture numéro 1. Qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. Le pilote, magnifique, toujours la grande classe, Gilles Meignan. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes les yeux, les oreilles de Christian Prudhomme, le patron du Tour de France.
Je lui donne les infos parce qu'il est assis derrière moi, donc il n'a pas toujours les yeux rivés sur ce qui se passe.
Est-ce que la Skoda rouge que vous avez est une voiture particulière, au-delà d'être dans l'air du temps maintenant, hybride ou électrique, je ne sais pas?
Bah, on a les deux, mais là en ce moment on a la 100% électrique. Donc non, c'est la voiture que tout le monde peut acheter, c'est la voiture de monsieur tout le monde. Alors mis sa couleur, son gyrophare et ses antennes, voilà, c'est les seules choses qu'il y a en plus.
Ah, c'est pas une voiture ministérielle ou présidentielle américaine blindée de tous les côtés, non?
Non, on est sur des courses de vélo là, on n'est pas dans le show business.
On est bien dans cette voiture, Gilles Meignan? On est bien installé?
Ouais, faut le demander à mes passagers, moi je suis bien, mon poste de conduite est très bien. Après faut le demander à Christian qui est derrière moi, comme je suis grand, il est grand. Les invités, j'espère qu'ils sont pas trop secoués dans la voiture, mais moi ça va en tout cas.
Il se met juste derrière vous le patron?
Oui, toujours.
Toujours.
Ouais. Parce qu'en fait nous la voiture, il y a des règles, elle circule sur la bande de droite. Donc toutes les voitures, toutes les motos qui sont susceptibles de nous doubler, de demander l'autorisation pour justement doubler les coureurs, sont obligés de demander à Christian. Donc il est côté gauche pour pouvoir leur parler. Donc voilà, c'est plus simple.
Il n'y a que du sourire, il n'y a pas de petit vomi à la fin de vos invités, ça s'est bien passé? Non, sûr?
Non.
Honnête?
Non, je vais être honnête, c'est arrivé une fois, mais il y a très longtemps.
Ah oui, quand même, il était malade.
Une personne, non mais c'est. Alors voilà, c'est l'anecdote, c'est qu'on était sur une étape de montagne et on demande toujours avant aux voitures pour essayer de les prévenir. Et la réponse c'est: ah mais moi, non, je suis malade en voiture.
C'est un peu comme le bateau, quoi.
Voilà, exactement. Donc ça a été un peu compliqué.
À gérer. Surtout quand ça roule vite.
Ouais. Que ça roule vite ou pas, c'est particulier.
Bonne route, bonne course encore. Merci pour tout ce que vous faites avec Christian Prudhomme, pour la sécurité aussi. Merci, Gilles Meignan. Encore une fois, bonne journée.
Merci à vous.
Tour de France 2022. RTL, chez vous.
Christophe Bérard du Parisien, aujourd'hui en France avec nous de RTL, chez vous. Bonjour Christophe.
Salut Christophe.
Ça ressemble à un ring, hein. C'est le dernier duel, l'avant-dernier. Il y en aura un autre demain quand même au Taka, mais la Peragut, c'est fort. Hein.
Mais c'est exactement ça, c'est un ring. Alors catégorie poids plume, quand on voit la corpulence de des deux hommes qui feraient peur à personne dans la rue. Il y a le challenger, le vexé, celui qui a perdu sa ceinture il y a quelques jours, sa ceinture jaune, et qui veut la reprendre. Il est vexé, il va peut-être donner des coups un peu partout, peut-être un peu n'importe comment. Dans l'autre rôle, Vingegaard. Alors Vingegaard, il est en avance, mais il n'a jamais gagné un grand tour. Il sait pas comment on gère la pression, officiellement tout va bien, mais il y a quand même, il est un petit peu en alerte permanente. Et puis n'oublions pas les données de ces deux étapes pyrénéennes. Le but de Pogacar, c'est pas de reprendre 2 minutes 22 complètement sur le Danois, c'est d'en reprendre, allez, une bonne minute, une bonne minute 20, de façon à ce que au départ du dernier contre-la-montre de Rocamadour, il soit à une minute et refaire le coup de la planche des belles filles il y a deux ans. On se régale, merci messieurs.
Qui dans les cordes, pour reprendre votre expression propre à la boxe, au noblard. C'est le noblard hein, en ce moment. Hein.
Exactement, il y aura du chaos dans l'air, on sait pas qui, mais on a hâte de voir ça.
Christophe, Bérard, on se dit à demain.
À demain.
RTL, chez vous.
Les Pyrénées, on est en plein dedans, avec plein d'espoir français encore. Qui sait? Bonjour, Tance Crépin.
Bonjour, Christophe, bonjour à tous.
Tiens, un petit Gaudu qui est cinquième, pourquoi pas sur le podium? Qu'en pensent les habitants de Saint-Gaudens?
Ah, en tout cas, Christophe, je peux vous dire une chose, ils ont envie d'y croire, hein, de voir David Gaudu sur le podium dimanche.
Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait un Français soit sur le podium, ça arrive pas tous les ans. Mais mis à part la troisième place, je crois que ça va être dur d'aller viser mieux que ça. Mais on va compter sur Gaudu, une petite attaque quand même, pourquoi pas aujourd'hui?
Je pense que ça va être compliqué, mais bon, en étant Français, on espère.
On est un petit peu chauvin, donc on voudrait forcément voir un Français.
Oui, donc ça serait beau, oui, de le voir sur les champs.
Faut bien qu'un Français arrive sur le podium.
Et n'oubliez jamais, 8h40, le tour d'Hortense sur RTL.
RTL, chez vous.
Les métiers du tour. Bonjour à vous, Marion.
Bonjour.
Votre rôle ici, c'est d'être hôtesse, mais un peu particulière. Vous n'êtes pas protocole bisous-bisous, vous?
Alors, pas de bisous-bisous, parce qu'on est vite avec la Covid, hein, malheureusement. Mais voilà, protocolaire, en tout cas, pour la FDJ, on accueille des invités tous les jours. Donc, 15 invités par jour. Puis, on leur fait découvrir voilà, toute l'ambiance
Avec des cadeaux, avec des plateaux repas aussi.
Des plateaux repas, des cadeaux. Certains montent avec notre grand Laurent Mangel et ils ont la chance de pouvoir faire l'hélicoptère également sur l'étape. Voilà, bon, moi je le fais pas malheureusement, mais en tout cas il y a des petits cadeaux quand même. Voilà.
Le message est passé, moi j'ai pas d'hélico. C'est vrai qu'une journée type de VIP, c'est ça, c'est rendez-vous au village et puis ensuite on suit la course avec des anciens coureurs.
Exactement, ça se passe bien en général, ils sont contents.
Qu'est-ce qu'ils sont gâtés, mais qu'est-ce qu'ils sont
gâtés. Ils reviennent en général, donc ça va.
Ils reviennent toujours.
Ils reviennent toujours.
Et à l'arrivée, ils sont placés dans une tribune particulière ou dans un bus?
Alors ils sont placés, on en a certains qui ont la chance de pouvoir aller au bus des coureurs. La plupart après vont à l'espace Tourmalet ou l'espace Isoar pour terminer la journée sur une coupe de champagne, donc c'est pas mal non plus.
Mais c'est unique quand même comme expérience.
C'est incroyable. Bah, généralement quand on le fait une fois, on le fait, on continue et ça ne s'arrête pas. Moi c'est mon 8e, donc voilà.
Ah oui, quand même déjà.
Bah oui, mais je pense que t'en as plus que moi.
Un de plus,
pas un de plus,
à peine. Ah non, 10, 10, 20, ah oui, 20 de plus. Ah oui,
ouais. Donc voilà, non, vraiment, c'est une expérience incroyable. Les paysages sont magnifiques, franchement, c'est vraiment la meilleure façon de découvrir la France.
Bonne route aujourd'hui et belle course.
Merci à toi aussi.
Tour de France 2022.
RTL, chez vous.
Le coup de cœur de Laurent Jalabert. Bonjour Laurent.
Bonjour Christophe. Mon coup de cœur, évidemment, c'est pour le vainqueur de l'étape d'hier. Déjà, un garçon très attachant parce que cet accent québécois, il est super sympathique et on a plaisir à l'entendre, à l'écouter. Mais en plus, ce qu'il a réalisé hier, c'est un véritable exploit. Et quand on connaît son histoire, d'où il revient, par où il a dû passer et comment, finalement, dans ce final, il s'est raccroché à ce qu'il y avait peut-être au-dessus de lui, à la mémoire de son frère, pour aller chercher le premier succès de sa carrière professionnelle. Ben, ça inspire tout le respect du monde. Et voilà, je suis très heureux pour Hugo Houle, qui le mérite mille fois, évidemment. On a tous eu ce frisson à l'arrivée au moment où il était submergé par l'émotion.
Belle étape à vous, aujourd'hui, encore dans les Pyrénées, jusqu'à Péragude, Laurent Jalabert. Et à ce soir pour le club Jalabert.
Bonne journée, à 18h30, n'oubliez pas.
32-10, 3-2-1-0.
Christophe Paco,
RTL, chez vous.
Et rendez-vous, Olivier, avec Laurent Jalabert, là-haut, tout là-haut, au sommet de l'Altiport de Péragude ce soir.
Évidemment, merci Christophe. Jamais on oublie le club Jalabert, 18h30, 19h pour faire le point sur l'étape peut-être décisive, deuxième étape pyrénéenne, arrivée au sommet. Ça commence dans un quart d'heure maintenant et dès 13h30, on fera un premier point sur la moto RTL avec Nicolas Georgerot.